Chapitre 3. La personnalisation ou la plus petite différence marginale. To be or not to be myself. Ouvrez les guillemets. Il n'est pas une femme, si exigeante soit-elle, qui ne puisse satisfaire les goûts et les désirs de sa personnalité avec une Mercedes-Benz. Depuis la couleur du cuir, le garnissage et la couleur de la carrosserie jusqu'aux enjoliveurs et ses mille et une commodités qu'offrent les équipements standards ou optionnels. Quant à l'homme, bien qu'il pense surtout aux qualités techniques et aux performances de sa voiture, il exaucera volontiers les désirs de sa femme car il sera également fier de s'entendre complimenter sur son bon goût. Selon votre désir, vous pouvez choisir votre Mercedes-Benz parmi 76 peintures différentes et 697 assortiments de garniture intérieure, etc. Ou alors, avoir trouvé sa personnalité, savoir l'affirmer, c'est découvrir le plaisir d'être vraiment soi-même. Il suffit souvent de peu de choses. J'ai longtemps cherché et je me suis aperçu qu'une petite note claire dans mes cheveux suffisait à créer une harmonie parfaite avec mon teint, mes yeux. Ce blond, je l'ai trouvé dans la gamme du shampoing colorant Récital. Avec ce blond de Récital, tellement naturel, je n'ai pas changé. Je suis plus que jamais moi-même. Fermez les guillemets. Ces deux textes, parmi tant d'autres, sont tirés, le premier du monde, le second d'un petit hebdomadaire féminin. Le prestige et le standing qu'ils mettent en jeu est sans commune mesure, de la somptueuse Mercedes 300 SL à la petite note claire du shampoing Récital, toute la hiérarchie sociale s'engouffre, et les deux femmes mises en scène dans les deux textes ne se rencontreront sans doute jamais, peut-être au club méditerranéen, qui sait. Toute la société les sépare, mais la même contrainte de différenciation, de personnalisation, les réunit. L'une est A, l'autre est Nona. Mais le schème de la valeur personnelle est le même pour l'une et l'autre, et pour nous tous qui frayons notre voie dans la jungle personnalisée de la marchandise optionnelle, cherchant désespérément le fond de teint qui révélera la naturalité de notre visage, le truc qui illustrera notre idiosyncrasie profonde, la différence qui nous fera être nous-mêmes. Toutes les contradictions de ce thème, fondamentales pour la consommation, sont sensibles dans l'acrobatie désespérée du lexique qu'il exprime, dans la tentative perpétuelle de synthèse magique et impossible. Si l'on est quelqu'un, peut-on trouver sa personnalité? Et où êtes-vous, tandis que cette personnalité vous hante? Si l'on est soi-même, faut-il l'être vraiment, ou alors, si l'on est doublé par un faux soi-même, suffit-il d'une petite note claire pour restituer l'unité miraculeuse de l'être? Que veut dire ce blond tellement naturel? L'est-il, oui ou non? Et si je suis moi-même, comment puis-je l'être plus que jamais? Je ne l'étais donc pas tout à fait hier? Puis-je donc m'élever à la puissance 2? Puis-je m'inscrire en valeur ajoutée à moi-même, comme une sorte de plus-value dans l'actif d'une entreprise? On trouverait des milliers d'exemples de cet illogisme, de cette contradiction interne qui ronge tout ce qui a trait aujourd'hui à la personnalité. Or, dit Risman, ce qui est le plus demandé aujourd'hui, ce n'est ni une machine, ni une fortune, ni une œuvre, c'est une personnalité. Fermez les guillemets. Le comble de cette litanie magique de la personnalisation est atteint avec ceci. Personnalisez vous-même votre appartement. Cette formule surréfléchie, se personnaliser soi-même, en personne, etc., livre le fin mot de l'histoire. Ce que dit toute cette rhétorique qui se débat dans l'impossibilité de le dire, c'est précisément qu'il n'y a personne. La personne, en valeur absolue, avec ses traits irréductibles et son poids spécifique, tel que toute la tradition occidentale l'a forgé comme mythe organisateur du sujet, avec ses passions, sa volonté, son caractère ou sa banalité, cette personne est absente, morte, balayée de notre univers fonctionnel. Et c'est cette personne absente, cette instance perdue qui va se personnaliser. C'est cet être perdu qui va se reconstituer in abstracto, par la force des signes, dans l'éventail démultiplié des différences, dans la Mercedes, dans la petite note claire, dans mille autres signes intégrés, constellés pour recréer une individualité de synthèse et, au fond, pour éclater dans l'anonymat le plus total, puisque la différence est par définition ce qui n'a pas de nom. La production industrielle des différences. La publicité tout entière n'a pas de sens, elle ne porte que des significations. Ces significations, et les conduites auxquelles elles font appel, ne sont jamais personnelles. elles sont toutes différentielles. Elles sont toutes marginales et combinatoires. C'est-à-dire qu'elles relèvent de la production industrielle des différences, par quoi se définirait, je crois, avec le plus de force, le système de la consommation. Les différences réelles qui marquaient les personnes faisaient d'elles des êtres contradictoires. Les différences personnalisantes n'opposent plus les individus les uns aux autres. Elles se hiérarchisent toutes sur une échelle indéfinie et convergent dans des modèles à partir desquels elles sont subtilement produites et reproduites. Si bien que se différencier, c'est précisément s'affilier à un modèle, se qualifier par référence à un modèle abstrait, à une figure combinatoire de mode, et donc par là, se dessaisir de toute différence réelle, de toute singularité qui, elle, ne peut advenir que dans la relation concrète, conflictuelle aux autres et au monde. C'est là le miracle et le tragique de la différenciation. C'est ainsi que tout le processus de consommation est commandé par la production de modèles artificiellement démultipliés, comme les marques de lessive, où la tendance monopolistique est la même que dans les autres secteurs de production. Il y a concentration monopolistique de la production des différences. Formule absurde. Monopole et différence sont logiquement incompatibles. S'ils peuvent être conjugués, c'est justement que les différences n'en sont pas, et qu'au lieu de marquer un être singulièrement, elles marquent au contraire son obéissance à un code, son intégration à une échelle mobile des valeurs. Il y a dans la personnalisation un effet semblable à celui de naturalisation qu'on retrouve partout à l'œuvre dans l'environnement, et qui consiste à restituer la nature comme signe après l'avoir liquidée dans la réalité. C'est ainsi qu'on abat une forêt pour y bâtir un ensemble baptisé « cité verte » et où l'on replantera quelques arbres qui feront « nature ». Le naturel qui hante toute la publicité est ainsi un effet de make-up. Ouvrez les guillemets. Ultra-biotie vous garantit un maquillage velouté, uni, durable, qui donnera à votre teint cet éclat naturel dont vous rêvez. Ou alors, c'est sûr, ma femme ne se maquille pas. Ce voile de phare invisible est présent. De même, la fonctionnalisation d'un objet est une abstraction cohérente qui se superpose et partout se substitue à sa fonction objective. La fonctionnalité n'est pas valeur d'usage, elle est valeur signe. La logique de la personnalisation est la même, elle est contemporaine de la naturalisation, fonctionnalisation, culturalisation, etc. Le processus général peut se définir historiquement. C'est la concentration monopolistique industrielle qui, abolissant les différences réelles entre les hommes, homogénéisant les personnes et les produits, inaugure simultanément le règne de la différenciation. C'est ici un peu comme dans les mouvements religieux ou sociaux. C'est sur le reflux de leur impulsion originelle que s'établissent les églises et les institutions. Ici aussi, c'est sur la perte des différences que se fonde le culte de la différence. La production monopolistique moderne n'est donc jamais seulement la production des biens. C'est toujours aussi la production monopolistique de relations et celle des différences. Une profonde complicité logique lie donc le méga-trust et le micro-consommateur, la structure monopolistique de la production et celle individualistique de la consommation, puisque la différence consommée dont se repaît l'individu est aussi un des secteurs clés de la production généralisée. En même temps, sous le signe du monopole, une homogénéité très grande lie aujourd'hui les divers contenus de la production-consommation. Biens, produits, services, relations, différences. Tout ceci, jadis distinct, est aujourd'hui produit sur le même mode et donc également voué à être consommé. Il y a aussi dans la personnalité combinatoire un écho de la culture combinatoire que nous avons évoquée plus haut. De la même façon que celle-ci consistait en un recyclage collectif, à travers les masses médias, sur la plus petite commune culture, ainsi la personnalisation consiste en un recyclage quotidien sur la plus petite différence marginale. Rechercher les petites différences qualitatives par lesquelles se signalent le style et le statut. Ainsi, fumer une Kent. Le comédien la fume avant d'entrer en scène. Le rallyman avant de boucler son casque. Le peintre avant de signer sa toile. Le jeune patron avant de dire non à son actionnaire principal. Dès qu'elle a cessé de fumer dans le cendrier, l'action se déclenche, précise, calculée, irréversible. Fermez les guillemets. Ou bien fumer une Marlboro, comme ce journaliste, dont l'éditorial est attendu par 2 millions de lecteurs. Vous avez une femme de grande classe et une Alfa Romeo 2600 Sprint? Mais si vous utilisez Greenwater comme eau de toilette, alors ce sera la trinité parfaite du grand standing, vous aurez tous vos quartiers de noblesse post-industrielle. Ou alors, ayez les mêmes carreaux de faïence dans votre cuisine que Françoise Hardy, ou la même plaque de gaz incorporée que Brigitte Bardot. Ou bien utilisez un grille-pain qui vous fasse des toasts à vos initiales, ou encore faites votre barbecue avec du charbon de bois aux herbes de Provence. Bien sûr, les différences marginales elles-mêmes sont soumises à une hiérarchie subtile. Depuis la banque de luxe avec coffre-fort Louis XVI réservé à 800 clients de choix, américains qui devront garder dans leur compte courant un minimum de 25 000 dollars, jusqu'au bureau de PDG qui sera antique ou premier empire, alors que le fonctionnel cossu suffit pour les cadres supérieurs, du prestige arrogant des villas néo-riches jusqu'à la nonchalance des vêtements de classe, toutes ces différences marginales scandent, selon une loi générale de distribution du matériel distinctif, loi que nul n'est censé ignorer, bien moins encore que celle du code pénal, la discrimination sociale la plus rigoureuse. Tout n'est pas permis, et les infractions à ce code des différences, qui, pour être mouvant, n'en est pas moins un rituel, sont réprimées. Témoin cet épisode amusant d'un représentant de commerce qui, s'étant acheté la même Mercedes que son patron, se vit licencié par celui-ci. Ayant fait appel, il fut indemnisé par les prud'hommes, mais non réintégré dans son emploi. Tous sont égaux devant les objets en tant que valeur d'usage, mais pas du tout devant les objets en tant que signes et différences, lesquels sont profondément hiérarchisés. Métaconsommation. Il est important de saisir que cette personnalisation, cette quête de statut et de standing, se fonde sur des signes, c'est-à-dire non pas sur des objets ou des biens en soi, mais sur des différences. Ceci seul permet d'expliquer le paradoxe de la surdifférenciation de prestige qui ne s'affiche précisément plus par l'ostentation, mais par la discrétion, le dépouillement et l'effacement, qui ne sont jamais qu'un luxe de plus, un surcroît d'ostentation qui se change en son contraire, et donc une différence plus subtile. La différenciation peut prendre alors la forme du refus des objets, du refus de la consommation, et ceci est encore le fin du fin de la consommation. Ouvrez les guillemets. Si vous êtes un grand bourgeois, n'allez pas aux quatre saisons. Laissez les quatre saisons aux jeunes couples affolés par le fric qui n'en ont pas, aux étudiants, aux secrétaires, aux vendeuses, aux ouvriers qui en ont assez de vivre dans la crasse, à tous ceux qui veulent des meubles jolis, parce que la laideur est fatigante, mais qui veulent aussi des meubles simples parce qu'ils ont horreur des appartements prétentieux. Fermez les guillemets. Qui va répondre à cette invitation perverse? Quelques grands bourgeois peut-être, ou quelques intellectuels soucieux de se déclasser? Au niveau des signes, il n'y a pas de richesse ou de pauvreté absolue, ni opposition entre les signes de la richesse et les signes de la pauvreté. Ce ne sont que des dièses et des bémols sur le clavier des différences. Ouvrez les guillemets. Mesdames, c'est chez X que vous serez le mieux dépeigné du monde. Ou alors, cette robe toute simple efface les traces de la haute couture. Fermez les guillemets. Il y a aussi tout un syndrome très moderne de l'anticonsommation qui est au fond métaconsommation et qui joue comme un exposant culturel de classe. Les classes moyennes, elles, ont plutôt tendance, héritières en cela des grands dinosaures capitalistes du 19e siècle et du début du 20e, à consommer ostensiblement. C'est en cela qu'elles sont culturellement naïves. Inutile de dire que toute une stratégie de classe est là derrière. Ouvrez les guillemets. Une des restrictions dont souffre la consommation de l'individu mobile, dit Reisman, est la résistance que les classes élevées opposent aux arrivistes, par une stratégie de sous-consommation ostentatoire. Ceux qui sont déjà arrivés ont ainsi tendance à imposer leurs propres limites à ceux qui voudraient devenir leur père. Fermez les guillemets. Ce phénomène, sous les formes multiples qu'il prend, est capital pour l'interprétation de notre société. Car on pourrait se prendre à cette inversion formelle des signes, et prendre pour un effet de démocratisation ce qui n'est qu'une métamorphose de la distance de classe. C'est sur la base du luxe que se consomme la simplicité perdue, et cet effet se retrouve à tous les niveaux. C'est sur la base de la condition bourgeoise que se consomme le misérabilisme et le prolétarisme intellectuel, comme, sur un autre plan, C'est sur la base d'un passé héroïque perdu que les Américains contemporains partent en voyage de plaisance collectif, filtrer l'or dans les rivières de l'Ouest. Partout, cet exorcisme des effets inverses, des réalités perdues, des termes contradictoires signalent un effet de consommation et de surconsommation qui partout s'intègre à une logique de la distinction. Il importe de saisir une fois pour toutes cette logique sociale de la différenciation comme fondamentale dans l'analyse et que c'est justement sur la relégation de leurs valeurs d'usage et des besoins qui s'y rattachent que s'institue l'exploitation des objets comme différentiel, comme signe, niveau qui seul définit spécifiquement la consommation. Ouvrez les guillemets. Les préférences en matière de consommation, reconnaît Risman, ne sont pas un perfectionnement de cette faculté humaine qui consiste à établir des rapports conscients entre l'individu et tel objet culturel. Elles représentent un moyen d'entrer avantageusement en contact avec les autres. En somme, les objets culturels ont perdu toute signification humaine. Leur possesseur en fait, en quelque sorte, des fétiches qui lui permettent de soutenir une attitude. Fermez les guillemets. Ceci, la priorité de la valeur différentielle, que Risman applique aux objets culturels, mais il n'y a pas à cet égard de différence entre objets culturels et objets matériels, était illustré comme expérimentalement par l'exemple d'une ville minière de la taïga québécoise, où, nous raconte le reporter, en dépit de la proximité de la forêt et de l'utilité à peu près nulle d'une voiture, chaque famille apportant son automobile devant sa porte. Voilà les guillemets. Ce véhicule l'avait bichonné, à qui on fait faire de temps en temps quelques kilomètres en rond sur la rocade de la ville, il n'y a pas d'autre route, est un symbole du niveau de vie américain, le signe qu'on appartient à la civilisation mécanique. Et l'auteur rapproche ses somptueuses limousines d'une bicyclette parfaitement inutile trouvée dans la brousse sénégalaise chez un ancien sous-officier noir revenu vivre au village. Mieux encore, le même réflexe démonstratif ostentatoire fait que les cadres aisés se font construire à leurs frais des chalets dans un rayon de 10 milles autour du bourg. Dans cette agglomération spacieuse, aérée, où le climat est salubre, la nature partout présente, rien n'est plus inutile qu'une résidence secondaire. Nous voyons donc jouer la différenciation de prestige à l'état pur, et combien les raisons objectives à la possession d'une automobile ou d'une résidence secondaire ne sont au fond qu'alibi à une détermination plus fondamentale. Distinction ou conformité. La sociologie traditionnelle ne fait pas, en général, de la logique de la différenciation un principe d'analyse. Elle repère un besoin pour l'individu de se différencier, c'est-à-dire un besoin de plus dans le répertoire individuel, et qu'elle fait alterner avec le besoin inverse de se conformer. Les deux font bon ménage au niveau descriptif psychosociologique, dans l'absence de théorie et l'illogisme le plus total, qu'on rebaptisera dialectique de l'égalité et de la distinction, ou dialectique du conformisme et de l'originalité, etc. On mélange tout. Il faut voir que la consommation ne s'ordonne pas autour d'un individu, avec ses besoins personnels indexés ensuite, selon une exigence de prestige ou de conformité, sur un contexte de groupe. Il y a d'abord une logique structurelle de la différenciation qui produit les individus comme personnalités, c'est-à-dire comme différents les uns des autres, mais selon des modèles généraux et selon un code auquel, dans l'acte même de se singulariser, ils se conforment. Le schéma singularité-conformisme, placé sous le signe de l'individu, n'est pas essentiel. C'est le niveau vécu. La logique fondamentale, c'est celle de la différenciation-personnalisation, placée sous le signe du code. Autrement dit, la conformité n'est pas l'égalisation des statuts, l'homogénéisation consciente du groupe, chaque individu s'alignant sur les autres. C'est le fait d'avoir en commun le même code, de partager les mêmes signes qui vous font différents tous ensemble de tel autre groupe. C'est la différence avec l'autre groupe qui fait la parité, plutôt que la conformité des membres d'un groupe. C'est différentiellement que se fonde le consensus et l'effet de conformité ne fait qu'en résulter. Ceci est capital, car cela implique le transfert de toute l'analyse sociologique, en matière de consommation particulièrement, de l'étude phénoménale du prestige, de l'imitation, du champ superficiel de la dynamique sociale consciente vers l'analyse des codes, des relations structurelles, des systèmes de signes et de matériel distinctif, vers une théorie du champ inconscient, de la logique sociale. Ainsi, la fonction de ce système de différenciation va bien au-delà de la satisfaction des besoins de prestige. Si l'on admet l'hypothèse énoncée plus haut, on voit que le système ne joue jamais sur des différences réelles, singulières, irréductibles, entre des personnes. Ce qui se fonde comme système, c'est précisément qu'il élimine le contenu propre, l'être propre de chacun, forcément différent, pour y substituer la forme différentielle, industrialisable et commercialisable comme un signe distinctif. Il élimine toute qualité originale pour ne retenir que le schème distinctif et sa production systématique. À ce niveau, les différences ne sont plus exclusives. Non seulement elles s'impliquent logiquement entre elles dans la combinatoire de la mode, comme les couleurs différentes jouent entre elles, mais sociologiquement, c'est l'échange des différences qui scelle l'intégration du groupe. Les différences ainsi codées, loin de diviser les individus, deviennent au contraire matériels d'échange. C'est là un point fondamental par où la consommation se définit. Premièrement, non plus comme pratique fonctionnelle des objets, possessions, etc. Deuxièmement, non plus comme simple fonction de prestige individuel ou de groupe. Troisièmement, mais comme système de communication, d'échange, comme code de signes continuellement émis et reçus et réinventés, comme langage. Les différences de naissance, de sang, de religion, jadis, ne s'échangeaient pas. Elles n'étaient pas des différences de mode et touchaient à l'essentiel. Elles n'étaient pas consommées. Les différences actuelles, de vêtements, d'idéologie, de sexe même, s'échangent au sein d'un vaste consortium de consommation. C'est un échange socialisé de signes. Et si tout ainsi peut s'échanger sous forme de signes, ce n'est pas par la grâce de quelques libérations des mœurs, c'est que les différences sont systématiquement produites selon un ordre qui les intègre toutes comme signes de reconnaissance et que, substituables les uns aux autres, il n'y a pas plus de tension ni de contradiction entre elles qu'entre le haut et le bas, qu'entre la gauche et la droite. Ainsi voit-on chez Risman les membres du peer group, groupe de pairs, socialiser des préférences, échanger des appréciations et, par leur compétition continuelle, assurer la réciprocité interne et la cohésion narcissique du groupe. Ils concourent au groupe par la concurrence, ou plutôt, par ce qui n'est plus une concurrence ouverte et violente, celle du marché et de la lutte, mais filtrée par le code de la mode, une abstraction ludique de la concurrence. Code et révolution. On saisira mieux ainsi la fonction idéologique capitale du système de la consommation dans l'ordre sociopolitique actuel. Cette fonction idéologique se déduit de la définition de la consommation comme institution d'un code généralisé de valeurs différentielles et de la fonction de système d'échange et de communication que nous venons de déterminer. Les systèmes sociaux modernes, capitalistes, productivistes, post-industriels, ne fondent pas tellement leur contrôle social, la régulation idéologique des contradictions économiques et politiques qui les travaillent, sur les grands principes égalitaires et démocratiques, sur tout ce système de valeurs idéologiques et culturelles partout diffusées, partout à l'œuvre. Même sérieusement intériorisées à travers l'école et l'apprentissage social, ces valeurs égalitaires conscientes, de droit, de justice, etc., restent relativement fragiles et ne suffiraient jamais à intégrer une société dont elles contredisent trop visiblement la réalité objective. Disons qu'à ce niveau idéologique, les contradictions peuvent toujours éclater de nouveau. Mais le système compte beaucoup plus efficacement sur un dispositif inconscient d'intégration et de régulation. Et celui-ci, au contraire de l'égalité, consiste précisément à impliquer les individus dans un système de différence, dans un code de signes. Telle est la culture, tel est le langage, telle est la consommation au sens le plus profond du terme. L'efficace politique, ce n'est pas de faire que là où il y avait de la contradiction, il y ait de l'égalité et de l'équilibre, c'est de faire que là où il y avait de la contradiction, il y ait de la différence. La solution à la contradiction sociale, ce n'est pas l'égalisation, c'est la différenciation. Il n'y a pas de révolution possible au niveau d'un code, ou alors, elles ont lieu tous les jours, ce sont les révolutions de la mode, elles sont inoffensives et déjouent les autres. Là encore, il y a erreur dans l'interprétation du rôle idéologique de la consommation chez les tenants de l'analyse classique. Ce n'est pas en noyant les individus sous le confort, les satisfactions et le standing que la consommation désamorce la virulence sociale. Ceci est lié à la théorie naïve des besoins et ne peut renvoyer qu'à l'espoir absurde de rendre les gens à plus de misère pour les voir se révolter. C'est au contraire en les dressant à la discipline inconsciente d'un code et d'une coopération compétitive au niveau de ce code. Ce n'est pas pour plus de facilité, c'est au contraire en les faisant entrer dans les règles du jeu. C'est ainsi que la consommation peut se substituer à elle seule à toutes les idéologies et à la longue assumer à elle seule l'intégration de toute une société, comme le faisaient les rituels hiérarchiques ou religieux des sociétés primitives. Les modèles structurels. Ouvrez les guillemets. Quelle mère de famille n'a pas rêvé d'une machine à laver spécialement conçue pour elle ? Interroge une publicité. En effet, quelle mère de famille ne l'a pas rêvé ? Elles sont donc des millions à avoir rêvé de la même machine à laver spécialement conçue pour chacune d'elles. Ouvrez les guillemets. Le corps dont vous rêvez, c'est le vôtre. Fermez les guillemets. Cette tautologie admirable, dont l'issue est évidemment tel ou tel soutien-gorge, ramasse tous les paradoxes du narcissisme personnalisé. C'est en vous rapprochant de votre idéal de référence, c'est en étant vraiment vous-même que vous obéissez le mieux à l'impératif collectif et que vous coïncidez au plus près avec tel ou tel modèle imposé. Astuce diabolique ou dialectique de la culture de masse ? Nous verrons comment la société de consommation se pense elle-même comme telle et se réfléchit narcissiquement dans son image. Ce processus diffuse au niveau de chaque individu, sans cesser d'être une fonction collective, ce qui explique qu'il ne contredit pas du tout un conformisme. Au contraire, comme les deux exemples ci-dessus le montrent bien, le narcissisme de l'individu en société de consommation n'est pas jouissance de la singularité, il est réfraction des traits collectifs. Cependant, il est toujours connu comme investissement narcissique de soi-même à travers les plus petites différences marginales. Partout, l'individu est invité d'abord à se plaire, à se complaire. Il est entendu que c'est en se plaisant à soi-même qu'on a toute chance de plaire aux autres. À la limite, peut-être même la complaisance et l'auto-séduction peuvent-elles supplanter totalement la finalité séductrice objective. L'entreprise séductrice se retourne sur elle-même, dans une sorte de consommation parfaite. Mais son référent reste bien l'instance de l'autre. Simplement, plaire est devenu une entreprise où la considération de la personne à qui plaire n'est que secondaire. Un discours répété de la marque dans la publicité. C'est surtout sur les femmes que s'exerce cette invitation à la complaisance. Mais cette pression s'exerce sur les femmes à travers le mythe de la femme. La femme comme modèle collectif et culturel de complaisance. Evelyne Sulro dit bien « On vend de la femme à la femme, en croyant se soigner, se parfumer, se vêtir, en un mot se créer, la femme se consomme. » Et ceci est dans la logique du système. Non seulement la relation aux autres, mais aussi la relation à soi-même deviennent une relation consommée. Qu'il ne faut pas confondre, là non plus, avec le fait de se plaire à soi-même sur la foi de qualité réelle, de beauté, de charme, de goût, etc. Ceci n'a rien à voir. Dans ce cas, il n'y a pas consommation. Il y a relation spontanée naturelle. La consommation se définit toujours par la substitution à cette relation spontanée d'une relation médiatisée par un système de signes. En l'occurrence, si la femme se consomme, c'est que sa relation à elle-même est objectivée et alimentée par des signes, signes qui constituent le modèle féminin, lequel constitue le véritable objet de la consommation. C'est lui que la femme consomme en se personnalisant. À la limite, la femme, ouvrez les guillemets, ne peut raisonnablement faire confiance au feu de son regard, ni à la douceur de sa peau. Cela, qui lui est propre, ne lui confère aucune certitude. Bredin, la nef. Il est tout différent de valoir par des qualités naturelles et de se faire valoir par adhésion à un modèle selon un code constitué. Il s'agit là de féminité fonctionnelle, où toutes les valeurs naturelles de beauté, de charme, de sensualité disparaissent au profit des valeurs exponentielles de naturalité, sophistiquée, d'érotisme, de ligne, d'expressivité. Comme la violence, la séduction et le narcissisme sont relayés d'avance par des modèles, industriellement produits par les masses médias, et faits de signes repérables. Pour que toutes les filles puissent se prendre pour Brigitte Bardot, il faut que ce soit les cheveux ou la bouche ou tel trait de vêtement qui les distingue, c'est-à-dire nécessairement la même chose pour toutes. Chacun trouve sa propre personnalité dans l'accomplissement de ces modèles. modèle masculin et modèle féminin. À la féminité fonctionnelle correspond la masculinité ou la virilité fonctionnelle. Tout naturellement, les modèles s'ordonnent par deux. Ils ne résultent pas de la nature différenciée des sexes, mais de la logique différentielle du système. La relation du masculin au féminin, aux hommes et aux femmes réels, est relativement arbitraire. De plus en plus aujourd'hui, hommes et femmes viennent indifféremment se signifier sur les deux registres. Mais les deux grands termes de l'opposition signifiante ne valent, eux, au contraire, que par leur distinction. Ces deux modèles ne sont pas descriptifs. Ils ordonnent la consommation. Le modèle masculin est celui de l'exigence et du choix. Toute la publicité masculine insiste sur la règle déontologique du choix, en termes de rigueur, de minutie inflexible. L'homme de qualité moderne est exigeant. Il ne se permet aucune défaillance. Il ne néglige aucun détail. Sélect, il l'est non pas passivement ou par grâce naturelle, mais bien par l'exercice d'une sélectivité. Que cette sélectivité soit orchestrée par d'autres que lui, c'est une autre affaire. Pas question de se laisser aller ou de se complaire, mais de se distinguer. Savoir choisir et ne pas faillir équivalent ici aux vertus militaires et puritaines, intransigeance, décision, vertu. Ces vertus seront celles du moindre minet qui s'habille chez Romoli ou chez Cardin. Vertu compétitive ou sélective, c'est là le modèle masculin. Beaucoup plus profondément, le choix, signe de l'élection, celui qui choisit, qui sait choisir, est choisi, est élu entre tous les autres, est dans nos sociétés le rite homologue de celui du défi et de la compétition dans les sociétés primitives. Il classe. Le modèle féminin enjoint beaucoup plus à la femme de se faire plaisir à elle-même. Ce n'est plus la sélectivité, l'exigence, mais la complaisance et la sollicitude narcissique qui sont de rigueur. Au fond, on continue d'inviter les hommes à jouer aux soldats, les femmes à jouer à la poupée avec elles-mêmes. Même au niveau de la publicité moderne, il y a donc toujours ségrégation des deux modèles masculins et féminins et survivance hiérarchique de la prééminence masculine. C'est là, au niveau des modèles, que se lie l'inamovibilité du système de valeurs. Peu importe la mixité des conduites réelles, car la mentalité profonde est sculptée par les modèles, et l'opposition masculin-féminin, elle, comme celle du travail manuel-travail intellectuel, n'a pas changé. Il faut donc retraduire cette opposition structurale en termes de suprématie sociale. Premièrement, le choix masculin est agonistique, c'est, par analogie avec le défi, la conduite noble par excellence. C'est l'honneur qui est en jeu ou la vertu ascétique et aristocratique. Deuxièmement, ce qui se perpétue dans le modèle féminin, c'est au contraire la valeur dérivée, la valeur par procuration. La femme n'est engagée à se gratifier elle-même que pour mieux entrer comme objet de compétition dans la concurrence masculine, se plaire pour mieux plaire. Elle n'entre jamais en compétition directe, sinon avec les autres femmes au regard des hommes. Si elle est belle, c'est-à-dire si cette femme est femme, elle sera choisie. Si l'homme est homme, il choisira sa femme parmi d'autres objets signes, sa voiture, sa femme, son eau de toilette. Sous couleur d'autogratification, la femme, le modèle féminin, est reléguée dans un accomplissement de service par procuration. Sa détermination n'est pas autonome. Ce statut, illustré au niveau narcissique par la publicité, a d'autres aspects tout aussi réels au niveau de l'activité productrice. La femme, vouée aux objets domestiques, remplit non seulement une fonction économique, mais une fonction de prestige, dérivée de l'oisiveté aristocratique ou bourgeoise des femmes qui témoignaient par là du prestige de leur maître. La femme au foyer ne produit pas. Elle n'a pas d'incidence dans la comptabilité nationale. Elle n'est pas recensée comme force productive. C'est qu'elle est vouée à valoir comme force de prestige, de par son inutilité officielle, de par son statut d'esclave entretenu. Elle reste un attribut, régnant sur les attributs secondaires que sont les objets domestiques. Ou bien elle se voue, dans les classes moyennes et supérieures, à des activités culturelles, elles aussi gratuites, non comptabilisables, irresponsables, c'est-à-dire sans responsabilité. Elle consomme de la culture, pas même en son nom propre, culture décorative. C'est la promotion culturelle qui, derrière tous les alibis démocratiques, répond ainsi toujours à cette même contrainte d'inutilité. Au fond, la culture est ici un effet somptuaire annexe de la beauté. Culture et beauté étant beaucoup moins des valeurs propres, exercées pour elles-mêmes, qu'évidence du superflu, fonction sociale aliénée, exercée par procuration. Encore une fois, il s'agit ici des modèles différentiels, qu'il ne faut pas confondre avec les sexes réels, ni avec les catégories sociales. Il y a partout diffusion et contamination. L'homme moderne, on le voit partout dans la publicité, est invité lui aussi à se complaire. La femme moderne est invitée à choisir et à concourir, à être exigeante. Tout cela à l'image d'une société où les fonctions respectives, sociales, économiques et sexuelles, sont relativement mêlées. Cependant, la distinction des modèles masculins et féminins, elle, reste totale. D'ailleurs, même la mixité des tâches et des rôles sociaux et professionnels est en fin de compte faible et marginale. Peut-être même sur certains points, l'opposition structurelle et hiérarchique du masculin et du féminin se renforce-t-elle. Ainsi, l'apparition publicitaire de l'effet nu de Publicis a-t-elle marqué l'extrême point de contamination? Elle n'a cependant rien changé au modèle distinct et antagoniste. Elle a surtout mis en évidence l'émergence d'un tiers, modèle hermaphrodite, partout lié à l'émergence de l'adolescence et de la jeunesse, ambisexuée et narcissique, mais beaucoup plus proche du modèle féminin de complaisance que du modèle masculin d'exigence. Ce à quoi on assiste très généralement, d'ailleurs aujourd'hui, c'est à l'extension dans tout le champ de la consommation du modèle féminin. Ce que nous avons dit de la femme dans son rapport aux valeurs de prestige, de son statut par procuration, vaut virtuellement et absolument de l'homo consumens en général. Hommes et femmes sans distinction. Cela vaut pour toutes les catégories vouées plus ou moins, mais de plus en plus, selon la stratégie politique, aux biens domestiques et aux jouissances par procuration. Des classes entières sont ainsi vouées, à l'image de la femme, qui reste comme femme-objet emblématique de la consommation, à fonctionner comme consommatrice. Leur promotion de consommateur serait ainsi l'achèvement de leur destin de serf. À la différence pourtant de la ménagère au foyer, leur activité aliénée, loin de sombrer dans l'oubli, fait aujourd'hui les beaux jours de la comptabilité nationale.